Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Le schisme entre Orient et Occident et ses enjeux. Le processus de séparation entre Orient et Occident, a écrit un théologien, peut se résumer de la manière suivante. Le monde oriental et le monde occidental se sont développés selon des lignes différentes qui sont devenues finalement divergentes. Il en est résulté une incompréhension très profonde, aggravée rapidement par l'ampleur prise par la nouvelle civilisation occidentale, par son renouveau théologique, scolastique, par les décisions disciplinaires et doctrinales des papes du Moyen Âge. De fait, l'évolution de l'Église d'Occident au Moyen Âge, très différente de celle de l'Église d'Orient, a contribué à aggraver l'éloignement des deux pôles du christianisme. Mais n'allons pas trop vite et regardons d'abord le processus qui a conduit jusqu'à la date retenue par les historiens. Le 15 juillet 1054, jour où le cardinal Humbert déposait sur l'autel de Sainte-Sophie à Constantinople l'acte d'excommunication du patriarche Michel Cérulaire, lequel s'empressait d'excommunier à son tour l'envoyé du pape. Cette date de 1054, en réalité, est largement symbolique. À l'époque, l'événement est passé largement inaperçu et aucun historien byzantin n'en fait mention. À vrai dire, il est passé d'autant plus inaperçu que malheureusement, au cours du Xe et au début du XIe siècle, l'Église romaine avait vécu une des périodes les plus sombres de son histoire. L'instabilité des papes était si grande que les Byzantins ignoraient bien souvent le nom des véritables titulaires du siège de Rome. On se souvient qu'au 8e siècle, la papauté, mal soutenue par l'Empire byzantin, avait choisi de se tourner vers les Francs. Le pape Étienne II s'était rendu en France, avait sacré roi Pépin le Bref et avait obtenu de lui la promesse d'un soutien militaire en Italie. Après quoi, à partir des territoires qu'il avait conquis sur les Lombards, Pépin le Bref avait fait une donation solennelle à Saint-Pierre et à l'Église de Rome. C'est de cette donation, confirmée par son fils Charlemagne, que sont nés les États pontificaux. C'est par un acte du pape, devenu souverain temporel, qu'a été recréé l'Empire d'Occident, quand Charlemagne a été couronné empereur à Rome le jour de Noël de l'an 800. En contrepartie, Charlemagne exerçait sur l'Église l'autorité d'un protecteur, mais sa mainmise n'était pas du tout la même que celle des empereurs d'Orient. En Occident, l'empereur protégeait l'Église, mais il n'avait aucun pouvoir pour désigner le pape, même s'il revendiquait le droit de nommer lui-même les évêques. Alors qu'à Constantinople, l'empereur nommait directement le patriarche, mettant ainsi en pratique ce qu'on a appelé le césaropapisme. Charlemagne a lui-même résumé la distinction des pouvoirs telle qu'il la concevait en ces termes, je cite. « Notre rôle, disait-il au pape, c'est, avec le secours de la divine miséricorde, de défendre en tout lieu l'Église du Christ contre les attaques des païens et les ravages des infidèles, de lui donner comme défense, au-dedans et au-dehors, la reconnaissance de la foi catholique. Le vôtre, c'est d'élever les mains vers le ciel avec Moïse, et d'aider ainsi nos combats, afin que, par vos prières, sous la conduite et avec la grâce de Dieu, le peuple chrétien remporte partout la victoire. » Après les anathèmes réciproques de 1054, les relations entre Rome et Constantinople n'ont jamais cessé complètement. Mais c'est le renouveau même de la papauté avec de très grands papes comme Alexandre II, Grégoire VII ou Urbain II, qui a contribué à creuser davantage le fossé entre les deux églises. En plein développement, l'Occident élabore une nouvelle conception du monde et une nouvelle façon de vivre pratiquement le mystère de l'Église, qui, dans une large mesure, ignore l'Orient de l'époque et les traditions de ses pères. Nous sommes donc à l'aube de la création de ce monde nouveau, d'où devaient sortir le droit occidental, la scolastique, les cathédrales gothiques, et finalement la pensée moderne. Monde oriental et monde occidental vont se développer, l'un vivant de sa tradition patristique qu'il déploiera, l'autre ouvert à des perspectives nouvelles, imperméables l'un à l'autre. Si l'Occident développait ainsi sa propre vision du monde, c'est aussi parce qu'il avait eu longtemps un complexe d'infériorité devant la culture orientale. Il ne faut pas oublier que le grec est à la fois la langue dans laquelle s'est épanouie la philosophie à l'époque de Platon et d'Aristote, et la langue dans laquelle a été traduit l'Ancien Testament et rédigé le Nouveau. Tout naturellement, c'est en langue grecque que la théologie chrétienne a d'abord pris son essor. Si l'on met à part Tertullien au IIIe siècle, qui lui-même était parfaitement bilingue, la théologie de langue latine ne connaîtra pas de très grands noms avant la fin du IVe siècle, avec saint Ambroise et saint Augustin. Mais quelques siècles plus tard, il en ira bien différemment. L'effondrement de l'Afrique byzantine, la succession à Constantinople de crises intérieures, le sentiment enfin d'avoir mieux contenu que l'empereur d'Orient la ruée de l'islam, inspirent peu à peu aux latins la conviction que le sort du monde se joue dorénavant entre eux et les arabes. Conscient du développement de la puissance ecclésiastique, du droit canonique, de la scolastique, de plus en plus sûrs d'eux-mêmes, les Latins ne s'intéressent guère aux Byzantins et n'ont d'intérêt que pour la philosophie arabe qui connaît à ce moment son âge d'or. L'Orient, de son côté, conscient de la richesse de sa culture et de sa tradition, ne mesure pas l'importance de la partie qui est en train de se jouer en Occident. Le malentendu entre les deux sensibilités religieuses portait d'abord sur la manière de comprendre la primauté de l'évêque de Rome. Il est trop simple de croire que les orientaux ne lui accordaient qu'une primauté d'honneur. En effet, le concile de Sardique, tenu en 343, reconnaissait à tout ecclésiastique le droit d'en appeler à Rome s'il se trouvait être en conflit avec son supérieur local. C'est le canon 3 de ce concile. Mais les orientaux n'admettaient pas que le pape se considère habilité à convoquer lui-même n'importe quel ecclésiastique à Rome pour juger à frais nouveaux les affaires dans lesquelles il était impliqué. En d'autres termes, il n'acceptait pas que le pape ait le dernier mot sur toutes les questions dans l'Église. Il considérait qu'il y avait en réalité deux instances, d'une part le pape et d'autre part le concile œcuménique, dont le véritable président est le Christ, d'où la tradition vénérable de l'intronisation des évangiles au début de chaque session conciliaire, intronisé signifiant « placé sur un trône ». En conséquence, écrit le théologien orthodoxe Olivier Clément, si le pape prend position seul contre le concile, qui représente l'Église universelle, il se sépare de la communion catholique. Le cas du concile de Constantinople II est significatif à cet égard. On se souvient que le pape Vigile avait été contraint par l'empereur Justinien de se rendre à Constantinople, mais qu'il avait refusé de prendre part au concile et de s'associer à la condamnation des trois théologiens mis en cause, parce qu'il les considérait comme orthodoxes. Mais 6 mois après la fin du concile, le pape Vigile, de guerre lasse, avait fini par accepter de le reconnaître. Ainsi, écrit encore Olivier Clément, les papes et l'Église tout entière ont reconnu la légitimité œcuménique d'un concile qui avait excommunié un pape parce que celui-ci s'était opposé à lui. Regardons maintenant un autre témoignage postérieur à la date traditionnelle du schisme. En 1136 encore, Nicétas, archevêque de Nicomédie, s'adressait à un évêque latin en ces termes, je cite, « Mon très cher frère, nous ne refusons pas à l'Église romaine la primauté parmi les 5 patriarcats frères, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, et nous lui reconnaissons le droit de siéger à la place la plus honorable au concile œcuménique. Mais comment accepterions-nous ces décrets qui ont été promulgués sans que nous ayons été consultés, sans même que nous en ayons eu connaissance ? Si le pontife romain, assis sur le trône élevé de sa gloire, veut tonner contre nous et nous gouverner, nous et nos églises, non de concert avec nous, mais selon son bon plaisir, quelle espèce de fraternité ou même quelle espèce de parenté peut-il y avoir entre nous ? Nous serions les esclaves et non les fils d'une telle église, et le siège romain ne serait pas la pieuse mère de fils, mais la maîtresse dure et arrogante d'esclaves. J'implore votre pardon en parlant ainsi de l'église romaine, car je la vénère tout comme vous. Mais je ne puis la suivre avec vous en toute chose, et je ne pense pas qu'elle doive nécessairement être suivie en toute chose. » on peut faire au moins deux réflexions à propos de ce texte. La première, c'est qu'il montre que le dialogue continuait, vaille que vaille, à exister entre les évêques orientaux et occidentaux, près d'un siècle après le schisme. La deuxième, c'est que le contentieux entre Orient et Occident est tout aussi affectif que théologique. L'Orient se considère comme sous-estimé et humilié par la manière dont l'Église romaine le traite, alors que l'Église romaine, de son côté, se considère dans son bon droit en revendiquant une obéissance peut-être plus juridique que synodale. L'héritage de Pierre, écrit encore Olivier Clément, est pensé selon les schèmes du droit romain pour qui l'héritier, remplaçant le défunt, lui devient juridiquement identique. On est assez loin de saint Ignace d'Antioche qui, dans la préface de sa lettre aux Romains, saluait l'Église de Rome en l'appelant « celle qui préside à la charité ». Mais on doit souligner aussi que la position théologique des Byzantins sur la primauté du pape n'était pas très claire. Ils acceptaient de donner la première place à Rome comme lieu du martyre et des tombeaux des bienheureux apôtres Pierre et Paul, mais ils avaient, et ils ont toujours, beaucoup de mal à concevoir la transmission des prérogatives de Pierre à ses successeurs. Nous continuerons à approfondir cette question la prochaine fois.